Alors, donc, le message s'appelle le choix et non le choix. Pour le jeu de mots, si vous avez suivi. Bien sûr, si je le prononce un peu avec un cheveu sur la langue. Mais c'est ce que je voulais dire. Je pense que, c'est un sujet qui nous touche tous. Parce que on est face à des choix tous les jours. Il y a une citation, qui, je sais pas, je suis désolée, il me manque parfois les références de mes auteurs. Un choix, cela ne va pas sans une chaîne de sacrifices. Et c'est vrai que c'est un peu ça, parce qu'un choix, finalement, c'est un peu comme un deuil, parce qu'on dit oui à une chose et on dit non à d'autres. Et finalement, c'est vrai que c'est pas évident, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des responsabilités avec des choix. Je crois que c'est la phrase d'après. Voilà. Suis été trop vite. Tu te dis, j'ai plein de choses qui viennent en même temps dans la tête. J'essaie de les donner bien dans l'ordre, mais je pense que c'est aussi un thème important pour la rentrée parce que je disais donc les choix, on y est confronté très régulièrement. Et là, je pense à la rentrée forcément où vous allez pour les plus jeunes rentrer à l'école, à l'université, vous allez reprendre les cours, etc. Et là, vous allez être face à des choix importants qui vont déterminer votre année. Les choix de vos amis, les fréquentations que vous allez avoir. Ça va déterminer une partie de votre attitude à l'école. Les choix que vous allez faire quant au travail à l'école, les devoirs, l'écoute en classe, le fait de bavarder trop ou pas. Et tout ça, ça va déterminer. Et ça, c'est des choix, je veux dire, c'est des petits choix ou lesquels finalement on ne se pose pas vraiment pour y réfléchir beaucoup, mais c'est très déterminant. Après, on a les choix au travail, on a les choix voilà, avec qui on va passer du temps à la pause, café, qu'est-ce qu'on va partager comme sujet au repas. Enfin, voilà, on est confronté. La vie, c'est vraiment une succession de choix, petits et grands. Et donc, je voulais vous encourager à travers ce message à vraiment, voilà, faire des choix réfléchis, même les plus petits choix. Je pense que tous ceux qui partent là, sont partis en Angleterre, qui partent en Australie, enfin, c'est des choix. Ça n'a pas été juste, tiens, allez, je vais partir. Et je pense que pour la plupart, puisque justement, on connaît Dieu, on se place devant le Seigneur. Donc, comme je disais, la vie est enfin, on a beaucoup, beaucoup de choix à faire. Et dans la Bible, on le trouve. Je dis, on voit les hommes de Dieu, ils ont dû faire des choix. Ils ont dû ou se séparer, ou s'associer, ou, voilà, ils ont dû faire des choix. Et donc, entre guillemets, j'ai dit, c'est le résumé des choix. Mais c'est un peu ça, si on prend Deutéronome 30, 19 à 20. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Je voulais aussi qu'on lise le verset 17 et essayer de le retenir parce qu'on va s'en servir pour la suite. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Donc voilà, dans ce verset, donc 19, on voit que Dieu met devant nous la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, et c'est à nous de choisir. Les deux sont là, mais la responsabilité, le choix, il est à nous. Je reviens sur ça aussi tout à l'heure, enfin, mon petit jeu de mots sur le choix et non pas le choix. C'est que souvent, voilà, parfois on est tenté de faire un choix en fonction de soi. Et ça, c'est quand on se met nous-mêmes au centre. Enfin, on est centré sur nous-mêmes. Et je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à se centrer sur autre chose que nous-mêmes. Parce qu'on a vite fait le tour, et on peut vite s'ennuyer. Et donc, je pense, voilà, je vais vous encourager à ce qu'on fasse des choix, non pas en fonction de soi, mais en fonction de Dieu. Désolée quand ça souffle. Alors, j'ai écrit, il y a les bons et les mauvais choix. Il existe aussi le choix, tout simplement. Des fois, je sais pas, on a le choix entre deux mariages d'amis. C'est difficile. Il n'y a pas forcément un mauvais choix. Il y a juste, il faut faire un choix. Mais on ne pense pas aussi parfois il y a le meilleur choix. Et parfois on se contente du bon choix, alors qu'il y a le meilleur choix. Donc J'ai eu ça à cœur, c'est en fait, on était allé à une soirée Pulse. Non, c'était, enfin bref, il l'avait répété, mais on avait été à une session jeune. Et il y avait Christian Robichaud qui avait partagé sur un sujet par rapport à ça. Et j'avais vraiment à cœur de vous le redonner. Donc une partie de ce que je vais dire, ça va être un peu tiré de l'enseignement de Christian Robichaud sur un point. Donc, on va prendre un roi 2. Là, je vous demande de le prendre si vous avez vos Bibles, parce qu'il est un peu long le passage. 1 Roi 2, versets 1 à 4. Je l'ai nommé la dernière requête de David. David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils, Salomon, en ces termes. Donc, il venait de désigner Salomon comme celui qui allait être le futur roi, qui laissait sa place. Voici que je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu'il a prescrits, et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, et partout où tu iras. Et ainsi l'Éternel accomplira la promesse qu'il m'a faite en me disant: si tes descendants veillent sur leur conduite pour vivre fidèlement selon ma volonté, de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura toujours l'un d'entre eux sur le trône d'Israël. Voilà plus ou moins les dernières paroles de David à son fils. Et c'était intéressant ce qu'il disait, c'est, vous imaginez David qui était donc le grand roi d'Israël, qui avait une charge folle, enfin c'était un truc de fou, de diriger ce peuple. Et ce qu'il dit à son fils, il n'y a aucune stratégie militaire qui est donnée, aucune stratégie de gouvernement, enfin, rien de sa position de roi finalement, mais tout est centré sur sa relation avec Dieu. Sur, il faut que tu suives les ordonnances que Dieu t'a données, c'est pas mes stratégies que moi je vais te donner, mais c'est les stratégies que Dieu va te donner qui vont faire que tu vas réussir en tant que roi. Et finalement, c'est un peu ces derniers mots. Alors, soit vous allez me dire, on n'a peut-être pas tout écrit, etc. Mais si c'est écrit, c'est que c'était le plus important. Et c'est ça qu'il a transmis à son fils. Ensuite, on va prendre un roi 3, 4. Donc, il y a un passage que vous connaissez forcément. 3, versets 4 à 15. Je vais aller un peu plus long. Et je l'ai intitulé « La première requête de Salomon ». Donc, faire le contraste entre la dernière de David et la première de Salomon. Donc, verset 4. « Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Rien que là, juste, je suis sûr que vous l'avez tous fait, moi je le fais même encore, vous imaginez, voilà, on dit ah, « t'as trois vœux, hein, le truc du génie, là. Qu'est-ce que tu demandes ?» Et du coup, en préparant ce message, je me suis dit « Mais c'est vrai que la plupart du temps, à chaque fois que j'ai pensé à ça, j'ai quand même pensé à des choses assez pour moi, quoi. J'ai pas forcément demandé la paix dans le monde. Mais c'est vrai, quand on y pense, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, ce truc, vous dire, mais si jamais j'avais trois choses, là, que je pouvais avoir, qu'est-ce que je demanderais? Donc, je vous laisse avec vos propres pensées. Et on va continuer. Salomon répondit. Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà, ton serviteur au milieu de ton peuple, que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorderai ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Alors là, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai toujours lu ce passage en me disant, waouh, la classe. C'était intelligent comme demande. C'était sage de demander de la sagesse. Il était conscient qu'il était trop jeune pour gouverner. Il était conscient qu'il n'avait pas les compétences. Et il demandait l'aide de Dieu. Et puis, du coup, ce que je pensais par rapport à ce passage, j'ai été un peu bouleversée par ce partage de Christian Robichaud. Il a dit, oui, Salomon a fait un bon choix. Mais ce n'était pas le meilleur choix. C'était une bonne demande. Mais ce n'était pas la meilleure demande. Et en fait, si on compare le dernier requête de David et la première de Salomon, on voit la différence entre le fait que David était centré sur Dieu, sur la relation à Dieu, sur l'obéissance à Dieu, sur le fait de faire de Dieu ses délices. Et Salomon, il était, je pense, enfin, il avait peur. Quelque part, on pourrait rejoindre ce que tout à l'heure Olivier disait, la peur, la crainte, la différence. Peut-être David avait vraiment une crainte de l'Éternel, alors que peut-être que Salomon avait un peu peur de Dieu. Il était tellement peur de cette charge qui lui était voulue qu'il était plus centré sur ce qu'il devait faire au lieu de ce qu'il devait être, je pense. Bon, après, vous pouvez encore en discuter avec moi, mais j'ai trouvé cette réflexion intéressante, dans le sens où on voit ensuite les fruits de ce que ça a donné. Effectivement, Salomon a toujours été vu comme quelqu'un qui a été une personne les plus sages, qui a rendu des sentences, des jugements, merci, qui ont été très sages, qui ont été comportés des beaux fruits finalement dans l'application. Mais si on regarde le fruit final, malheureusement, c'est pas ça qui lui a apporté finalement le succès. J'ai une petite phrase là ensuite qui dit, enfin que j'avais à cœur de partager. David avait un cœur selon Dieu. Il connaissait le Dieu du temple quand Salomon connaissait le temple du Dieu de David. Dans le sens où c'est pas David qui a construit le temple, puisqu'il pouvait pas. Dieu a demandé que ce soit son fils. Donc c'est vrai que, du coup, Salomon connaissait très bien le temple, puisqu'il l'avait construit. Mais finalement, David connaissait mieux le Dieu de ce temple. Je fais une parenthèse sur David avait un cœur selon Dieu. Il y a ce verset qui dit « C'était un homme selon mon cœur ». Je crois que certaines traductions, on l'imagine comme « Il avait un cœur comme Dieu ». C'est pas possible. On peut pas avoir un cœur comme Dieu. On peut essayer comme on veut. On n'est pas Dieu, on est des hommes. Mais ce qu'on peut tirer de ce verset, c'est plutôt dans le sens un cœur après Dieu, dans le sens où on soupire toujours après à le connaître, à chercher qui il est, à être comme, dire que à force d'être de chercher à le connaître, on a les mêmes désirs. C'est il dit, il faut aimer ce que Dieu aime et haïr ce qu'il haït. C'est vraiment à force de passer du temps avec lui et de le connaître qu'on a un cœur selon Dieu. Et la phrase d'après, j'ai mis Salomon avait pour préoccupation première son rôle auprès du peuple, ce qui était bien. C'est une bonne chose. Il s'en fichait pas de sa position. Alors que David se préoccupait d'abord de sa relation avec Dieu. Donc c'est vrai qu'on le voit dans tous les psaumes qui ont été majoritairement écrits par David. C'était, voilà, sonde-moi, ô Dieu, et change mon cœur, et vraiment toujours centré sur... Alors bon, je veux pas dépeindre Salomon comme quelqu'un de pas bien, c'était quelqu'un de formidable, mais malheureusement, il s'est trompé, je pense, dans cette demande. Parce que si on regarde bien les fruits finaux, David a commencé avec rien, et il a fini avec tout. David, c'était le berger, le petit dernier qui a même pas été daigné être appelé quand on a dit « montre-moi tes fils ». Ah bah oui, tiens, il m'en reste un, on va le ramener. Il avait rien, il avait pas de formation militaire, il avait rien au départ. Et il s'est retrouvé le plus grand roi d'Israël qui avait... Enfin voilà, on parle beaucoup de David. Alors que Salomon, il a commencé avec tout. C'était voilà le fils du roi, il avait la formation, il avait un entourage, il avait tout. Mais malheureusement, il a fini avec rien. C'est lui qui a fait entrer l'idolâtrie dans le pays. C'est lui qui, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais de retenir quand je parlais de Deutéronome. Donc je vous mets devant vous la vie et la mort. Et juste avant, quand le verset 17, si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous le laissez entraîner à adorer d'autres dieux et leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Et quelque part, c'est ce qui est arrivé à Salomon. Alors certes, il a une longue vie parce que Dieu lui a promis, mais il a péri. Il a le culte des idoles avec toutes les femmes qu'il a laissées rentrer, chacun son dieu personnel et son petit culte. Et du coup, voilà, malheureusement, il a fini mal. Et voilà, donc c'est ça le meilleur choix, de se dire qu'il y a des bons choix y a des meilleurs choix. Et ça m'a fait réfléchir, donc j'espère que ça vous fait réfléchir aussi. À ce côté-là, moi, ça m'a vraiment parlé. Je vais continuer en disant comment aujourd'hui nous, on peut faire les meilleurs choix. Je crois que la semaine dernière, c'était Samuel qui a prêché sur être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Bon, j'ai pas entendu tout, j'étais avec les enfants en bas, mais je crois que c'était le thème. Et bah déjà, c'est une clé. Être rempli de l'Esprit de Dieu pour faire des choix qui sont selon le cœur de Dieu. Donc c'est ça, il faut déjà mettre son cœur en diapason avec Dieu. Je fais une parenthèse avant de continuer sur tout à l'heure ce que je vous disais par rapport à ce qu'a partagé Olivier tout à l'heure. Finalement, c'est exactement ce que je viens de dire. Il a dit, il faut le connaître pour mieux le comprendre et acquérir la sagesse et pas l'inverse. C'est ce que Olivier a dit tout à l'heure. Et ça m'a fait sourire parce que finalement, c'est exactement ça. David, il a fait ça. Il a cherché à mieux connaître Dieu, à mieux le comprendre. Et grâce à ça, il a acquéri la sagesse, il a acquéri le fait de pouvoir être un bon roi. Malheureusement, Salomon a fait l'inverse, il a demandé la sagesse. C'était bien, c'était une bonne chose, mais malheureusement, justement, c'est exactement ça. Il a pris le truc à l'envers. Et c'est dommage. Et donc nous, pareil, si on veut réussir dans notre vie, on veut avoir le succès, on veut avoir un beau mariage, on veut que nos enfants soient bien éduqués, on veut réussir dans le travail, on veut réussir à l'école. Enfin, on veut. Enfin, je pense la plupart d'entre nous, sinon c'est qu'on est déprimé. Mais il faut, on a besoin vraiment de Dieu pour ça, et pas lui demander juste d'abord. Enfin, oui, il faut qu'on lui demande la sagesse. Il y a des paroles qui lui disent, mais il faut pas chercher encore une fois la bénédiction de Dieu. Il faut d'abord chercher le Dieu de la bénédiction. Un truc qui m'a traversé l'esprit, je viens de l'oublier, c'est dommage. On va continuer. Ça arrive. Donc, je disais, il faut mettre son cœur en diapason avec Dieu. Comment? Donc, Romains 10, 17, que vous connaissez tous. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça, on l'a partagé justement à la réunion de prière mercredi. Comment connaître Dieu? Comment mettre notre cœur au diapason avec le cœur de Dieu pour avoir un cœur selon Dieu? Qui bat de la même manière, on va dire, bah, c'est en lisant sa parole, c'est en s'imprégnant, c'est ce que dit la Bible, après, c'est pas moi qui l'invente. On a besoin de la foi vient de ce qu'on entend, et d'où est-ce qu'on tire la foi de ce qu'on entend, d'où vient ce que l'on entend? Les médias, ça c'est déprimant, des fois, je regarde sur Google Actualité, c'est que, enfin, je sais même pas si j'ai vu une bonne nouvelle dans les actualités, c'est toujours des meurtres, des suicides, des problèmes financiers, enfin c'est assez déprimant, et quand j'entends ça, moi ça me déprime plus qu'autre chose, alors que quand on lit la parole de Dieu, ça nous édifie. Et c'est de là que vient notre foi, qu'on a un avenir et de l'espérance. Et je pense que nous, si on veut aussi réussir, faire les bons choix, eh ben c'est en s'imprégnant de la parole de Dieu. Mais vous savez, de toute manière, quand c'est un principe simple, quand on passe du temps avec quelqu'un, on finit par lui ressembler un petit peu. On a un peu les mêmes façons de penser, on a un peu les mêmes façons d'être. Il suffit de voir les couples, déjà, ça c'est un bon exemple. Mais même au-delà de ça, les amis, vous finissez forcément par être influencés ou influencer l'autre. Dans tous les cas, ça marche un peu les deux. Donc c'est pareil, quand on se laisse influencer par la parole de Dieu, ça déteint forcément sur nous, sur notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Donc vraiment, c'est comme ça la première chose. C'est vraiment le connaître mieux pour pouvoir faire des bons choix. Ensuite, se poser et établir ses priorités. Il faut savoir se poser et réfléchir. Dans Luc 14, 28, c'est ce que la Bible dit. En effet, donc verset 28, « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera, et de vérifier s'il a les moyens pour mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec? Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 ? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Jésus lui-même nous invite à réfléchir. Comme disait, merci Olivier, vraiment, tu m'as préparé le terrain. On n'est pas appelé à être bête. On est appelé à utiliser notre intelligence. Et notre intelligence, c'est pas forcément notre QI. On est d'accord. Il y a énormément de différentes intelligences. Intelligence relationnelle, il y en a. Ils peuvent avoir un QI là, mais alors relationnellement, bref. Tout ça pour dire, voilà, l'intelligence, c'est bien plus que le simple QI. Donc, on est appelé à utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. On est appelé à réfléchir et à prendre nos responsabilités. C'est vrai, comme disait Olivier tout à l'heure, des fois c'est plus facile de dire tu fais ça, 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 ok, je fais ça, je réfléchis pas. Mais non, Dieu, il nous a justement laissé un choix parce qu'il veut qu'on soit des êtres responsables et qu'on puisse vraiment utiliser ce qu'il nous a donné. Donc, réfléchir. Établir des priorités. Juste une petite parenthèse, j'avais entendu ça aussi, c'est vrai, qu'il ne faut pas prendre des décisions sous la pression. Un signe de la présence de Dieu, c'est la paix. Elle disait même, il vaut mieux pas prendre de décision que prendre une décision comme ça sous la pression. Parce que, la Bible nous dit, voilà, pose-toi, réfléchis. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois faire? C'est vaut mieux retarder une décision que de prendre vite fait une décision qu'après qui va bouleverser notre vie de la mauvaise manière. On peut croire que Dieu nous guide et qu'il est là, il permet de rattraper parfois les choses, mais il nous appelle d'abord à être responsables et à utiliser notre tête. Et donc juste un petit encouragement, si vous êtes dans cette situation, vous devez prendre une décision vite fait, prenez pas tout de suite la décision, mais posez-vous et prenez le temps devant Dieu. Je suis en vase et toi. Alors là, c'est là que mon vase intervient. Alors il y en a peut-être qui connaissent cette histoire, Mais j'avais envie de la réillustrer pour vous, avec vous. Alors, si vous connaissez, jouez le jeu. Un vase. Dans la Bible, on est comparé des fois à un vase d'argile. Jésus est le potier, il nous a formés. Alors imaginons que c'est moi, il a fait un beau travail. Il y a quelques petites égratignures, mais c'est pas grave. Et donc du coup, un vase, c'est vide. En général. Sinon, on peut rien mettre dedans. Et donc, justement, si je continue mon illustration, c'est ma vie. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie? Alors, j'ai pris des pierres. Je vais essayer de pas le casser. J'ai fait des essais hier. Ce serait dommage. Normalement, ça rentre. Je t'ai pas demandé de t'éteindre, toi. Voilà. Les jeunes. Est-ce qu'il est plein? Est-ce que je peux mettre encore des grosses pierres? Merci. Mais je peux Heureusement, mon père fait tout le temps les travaux, donc il y a toujours des pierres dans le coin. Du gravier. Ok, plus ou moins plein. Enfin, il y a des endroits un peu vides, mais je peux pas y accéder. Mais, merci les boîtes maman. Je pense que, désolée pour ceux qui font le ménage, j'essaierai de nettoyer. Ouais, sur mon ordinateur, c'est pas grave. On va passer. Bon, est-ce que je peux mettre encore quelque chose là? Je crois que c'est pas mal, hein. Chut. Effectivement! Voyons voir. On va mettre pas mal, hein. 1 litre. C'est magnifique, je sais, c'est ma vie et... Waouh. Voilà. Est-ce que vous aurez pensé qu'on aurait pu mettre tout ça à la base? Je vais poser plutôt une autre question. Est-ce que vous pensez que si j'avais mis l'eau d'abord, j'aurais pu mettre tout le reste? Donc, la question, enfin là où je voulais en venir, c'est les priorités. Si je mets d'abord dans ma vie les futilités, je pourrais plus mettre les choses importantes. Donc bien sûr, l'allégorie, c'est les grosses pierres, les priorités. Alors après, chacun voit avec Dieu quelles sont ses priorités. En général, celles qui reviennent majoritairement, c'est Dieu, la famille, le travail, voilà. Après, les petits cailloux, je sais pas, les relations avec les amis, un loisir particulier, vous aimez, je sais pas, le scrapbooking, machin. Ensuite, le sable, je sais pas, les coups de fil. Enfin bref, c'est difficile de tout détailler, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment, l'idée, c'est de mettre les priorités dans vos vies. Et là, vous pourrez remplir votre vie de beaucoup de choses. Si j'avais rempli que d'eau, alors c'est vrai que ça aurait été joli, mais j'aurais eu pas grand-chose de conséquent. Alors que là, quand je regarde finalement dans mon vase, même si c'est pas très joli, mais j'ai beaucoup de choses. J'ai plein de choses à emmener avec moi et j'ai plein de choses à présenter à Dieu finalement. Si ce vase, c'est ma vie, j'en monte hein, pour ceux qui sont loin. Oula, il est lourd. Voilà. Vous voyez qu'il y a plein de choses, je pourrais encore en mettre de l'eau d'ailleurs. Si je vais à Dieu et que je présente ça, c'est vrai que c'est pas forcément beau, mais c'est plein de choses différentes. Et si je l'avais rempli juste avec de l'eau, bah c'est dommage. Je pense que Dieu m'aurait dit, je t'avais donné d'autres choses. Qu'est-ce que t'en as fait? Donc voilà, c'était une petite exhortation en illustration pour dire que il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse à comment est-ce que je vais remplir ma vie, dans quel ordre, avec quoi, comment, quelle quantité. Il n'y a pas de problème, je veux pas dire que les futilités, comme j'ai dit tout à l'heure, des loisirs, des machins, qu'il faut pas en avoir. Au contraire, c'est bien d'en avoir. Ça permet d'avoir des relations. Si par exemple, je sais pas, vous aimez un sport, vous en faites avec un ami inconverti, c'est une occasion de témoigner. Et c'est bien que vous ayez ça dans votre vie. Donc, c'est bien, mais il y a des priorités. Et il faut vraiment les voir avec Dieu. Donc, c'était une petite illustration. Je pense que certains ont déjà lu cette histoire, mais je voulais vraiment vous la visualiser. Alors, je voulais vous lire ça, parce que ça m'avait parlé, c'est une citation, pareil encore une fois, je suis désolée. Je mets toutes les citations dans un coin et puis des fois je mets pas toujours les auteurs. Vous ne pouvez pas séparer la vision d'une personne et sa destination dans la vie. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais ce que vous voyez. Ce que vous voyez affecte ce que vous croyez. Si vous ne voyez rien dans votre esprit, vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi. Ne vous y trompez pas, la foi n'est pas aveugle. Elle voit une réalité invisible qui n'est simplement pas encore manifestée. Les visionnaires ne sont pas faciles à intimider. Ils jettent rarement l'éponge. Ils effraient l'enfer par leur ténacité. Ils voient toujours quelque chose que leurs contemporains ne voient pas. Ils voient des possibilités là où les autres voient des problèmes. Et des opportunités lorsque la majorité ne voit que des obstacles. Que voyez-vous? Si vous pouvez voir l'invisible, vous pouvez accomplir l'impossible. C'est un des secrets bien compris par les personnes qui accomplissent leur destinée. Je ne vais pas forcément faire beaucoup de commentaires parce que c'est assez parlant. C'est pas une citation de la Bible, hein, c'est quelqu'un qui a écrit de chrétien, mais voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, là j'aurais aimé passer la vidéo. Grégoire, est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir le son? C'est là? Super. Alors, excusez-moi, je voulais vous passer une petite vidéo qui illustre un petit peu. Vous connaissez sûrement. C'est Facing the Giant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moment où l'équipe de football américain est en difficulté. Et celui qui a la casquette rouge, vous voyez pas très bien, c'est le coach. Et en fait, il a mis un défi au gars là qui est aveugle. Ils appellent ça le 4 pattes de la mort. En fait, ils sont à 4 pattes, ils doivent pas poser les genoux à terre. Et ils ont quelqu'un sur le dos et ils doivent avancer. C'est juste pour le contexte. Et je vous ai mis juste quelques minutes du film pour illustrer un point. Alors on va voir si ça marche. Il n'y a pas de son. Vous imaginez le son.
Il n'y a même pas de son sur ton ordinateur.
Voilà, vas-y. Yeah.
Tu es dans la zone barbute. Brock, c'est toi qui as le plus d'influence sur toutes ces critiques. Si tu t'as convaincu d'avancer, ils font pareil. Dis-moi que tu peux me donner plus que ce que je vais voir. Tu viens remonter tout le terrain avec un mec de près de 70 kilos sur le dos. Brock, j'ai besoin de toi. Dieu t'offre toutes les capacités d'un meneur d'or. Passe pas à côté.
Monsieur,
je peux compter sur toi.
Monsieur,
qu'est-ce qu'il y a, Jérémy?
Je pèse 80 kilos.
Voilà. Ceux qui n'ont jamais vu le film, j'espère que ça vous donnera envie de le voir. Alors, on va revenir à notre diaporama. Voilà. Alors ce petit passage, je voulais peut-être vous dire quel est le lien exactement. J'en voyais plusieurs en fait. De un, on parlait tout à l'heure de le fait que la foi est pas aveugle, et je voyais un peu un parallèle entre voilà, il lui avait bandé les yeux pour qu'il s'imagine pas, bah voilà, je suis arrivé à tel point, c'est bon, là, j'ai fini, je peux pas faire mieux. Et quelque part, si on peut imaginer le coach comme étant la foi, lui il se dit tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin, et fais pas confiance à tes ce que tu penses avoir comme capacité, mais va plus loin, quoi. Après, on peut aussi s'imaginer, enfin, faire des petits parallèles entre Dieu qui est là, qui nous dit, vas-y, vas-y, te décourage pas, continue d'avancer, t'as l'impression que c'est difficile, mais tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Il y a aussi, une autre image, je sais que c'est plein d'images différentes, hein, et toute image a ses limites, mais c'est juste pour nous encourager et de se dire que, voilà, on peut vraiment aller plus loin quand on fait par la foi, et non pas par la vue. Pour terminer, je voulais qu'on se souvienne de Jérémie 29:11 que vous connaissez tous. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez, m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Quand on fait des choix selon Dieu et non pas selon choix, on fait les bons choix, on fait les meilleurs choix. Parce que il a pour nous des projets de paix, des projets d'avenir, de l'espérance. Et c'est ça qu'il faut se rappeler quand on est face à des choix, même aussi infimes. Je pense que quand on est à l'école, le choix de nos amis, on a l'impression que ça n'a aucune importance. Mais quand on regarde en arrière, on voit que ça en a eu beaucoup. Et moi, je sais que je suis très reconnaissante à mes parents et grands-parents. Ma grand-mère priait énormément pour ça, ma mère aussi, toujours. Elle nous disait, mais sans trop appuyer, parce qu'on sait bien que les enfants, quand on appuie sur un point, on va vouloir faire exactement l'inverse. Mais justement, elle disait ça avec précaution, en disant, attention avec les gens avec qui tu passes du temps. Choisis bien tes amis. Bon, j'ai été bénie, puisque j'ai fait ma scolarité de du CP à la terminale dans le même établissement, j'avais plus ou moins les mêmes amis. Mais il se trouve que j'avais bien choisi dès le début. Mais enfin, c'est plutôt Dieu, parce qu'en CP, je sais pas si on choisit vraiment. Donc, en tout cas, voilà, je vous interpelle à faire attention aux petits choix qui ont l'air inoffensifs, qui ont l'air sans conséquences, alors qu'ils le sont. Parce que parfois, les gros choix, bien évidents, justement, on se pose pas la question, mais on oublie que parfois, les petits choix, ça peut avoir de grosses conséquences. Donc, ne pas oublier que Dieu a des bons projets pour nous. Si vous devez retenir qu'une chose de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est chercher le cœur de Dieu. Parce que quand je reprends David et Salomon, ce que faisait David, c'est qu'il cherchait à Dieu, il cherchait à plein de Dieu. Il était conscient qu'il n'avait aucune capacité de lui-même et qu'il dépendait complètement de Dieu. Et il cherchait Dieu. Dans Matthieu 6, 33, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et ça parle de soi. Pour ça, il faut le connaître. Alors faites le meilleur choix. C'est Jésus.